Merci de votre fidélité. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h. Le point de l'actualité avec vous, Marc-Aurèle Barrez. Au sommaire de cette édition, le Hezbollah n'interviendra pas militairement en cas de frappe américaine limitée contre l'Iran. Le mouvement a prévenu que toute atteinte au guide suprême iranien était une ligne rouge. L'Iran dénonce, je cite, les gros mensonges de Donald Trump concernant le programme nucléaire de Téhéran. Alors que des négociations doivent s'ouvrir demain, le président iranien se veut optimiste. Et notre dossier du jour, près du quart des étudiants vivent avec moins de 100 euros une fois leur loyer payé. Une précarité qui inquiète le syndicat étudiant, l'AFAGE. Bonjour, le Hezbollah n'interviendra pas militairement en cas de frappes américaines limitées contre l'Iran. Le mouvement considère néanmoins toute atteinte au guide suprême comme une ligne rouge. Le Liban a dit craindre des attaques d'Israël contre ses infrastructures civiles en cas d'implication du Hezbollah. L'Iran, accusé par Donald Trump de nourrir des ambitions nucléaires, a dénoncé ce mercredi ses accusations comme étant de gros mensonges. À la veille de nouveaux pourparlers avec les États-Unis à Genève, le président iranien Massoud Pezeshkian se montre lui confiant. Il a parlé de perspectives favorables, disant espérer sortir d'une situation tendue entre guerre et paix. L'ambassade des États-Unis va offrir pour la première fois des services consulaires en Cisjordanie occupée. L'expérience qui doit être renouvelée aura lieu dans la colonie d'Efrat, à 12 km au sud de Jérusalem. Une décision saluée mercredi par Israël, mais condamnée par l'autorité palestinienne. En Syrie, les autorités confirment des évasions massives de proches de djihadistes du camp d'Al-Hol. Des milliers de femmes et d'enfants se seraient évaporés suite au retrait fin janvier des troupes kurdes. En Russie maintenant, une attaque ukrainienne contre une usine d'engrais dans l'ouest du pays a fait au moins 7 morts. 10 personnes ont également été blessées. Il s'agit de l'une des frappes les plus meurtrières sur une zone industrielle en Russie depuis le début de l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine. Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé aujourd'hui en Israël de 2 jours. Objectif affiché, renforcer les liens en matière de commerce et de défense. Il a affirmé que le partenariat entre les deux pays était stratégique, solide et multiforme. Enfin, en France, la présidente du Louvre contrainte à la démission. Laurence Descartes a remis hier mardi sa lettre au président de la République. C'est Christophe Leribaud, l'ancien président du château de Versailles, qui prend la tête du musée le plus visité au monde. Enfin, le doyen connu des Français, Henri Contant, est décédé à l'âge de 110 ans. C'est l'EHPAD où il résidait à Bellerive-sur-Allier qu'il a annoncé aujourd'hui. Né dans Lyon, le 4 janvier 1916, Monsieur Contant s'était éteint le 15 février. Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint-Germain, fait lui partie du groupe pour affronter Monaco ce soir en Ligue des Champions. Le Marocain de 27 ans, vice-capitaine, pourrait jouer malgré son renvoi en procès pour viol. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, place à présent au dossier du jour. Regard sur la précarité des étudiants, près d'un quart d'entre eux vivraient avec moins de 100 euros par mois, cela une fois leur loyer réglé. C'est ce qu'indique une enquête menée par le syndicat étudiant l'AFAGE. On voit ça avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, et cette précarité a un impact direct sur leur santé et aussi sur leur réussite académique. C'est ce que souligne le syndicat étudiant. L'enquête de l'AFAGE indique que le loyer atteint en moyenne 491 euros, alors les plus élevés à Paris, 712 euros, c'est en moyenne la moitié de leur budget, des logements trop chers, mais aussi non adaptés aux réalités étudiantes, selon la présidente de ce syndicat. Alors, que reste-t-il une fois le loyer réglé? Eh bien, 22,3% des étudiants déclarent vivre avec moins de 100 euros par mois, et 52,2%, plus de la moitié donc, avec moins de 200 euros. Parmi les boursiers, 61% se trouvent dans cette situation et ce taux alarmant, 5% démarrent le mois à zéro ou même déjà à découvert. En résultat, les économies sont notamment faites sur l'alimentation et donc sur la santé des étudiants, 1 sur 2 qui travaillent en parallèle de leurs études, conséquences santé physique et mentale dégradée, qualité des études remise en cause. C'est justement le cri d'alarme de Suzanne Nijdam, la présidente de l'AFAGE, qui demande des mesures concrètes. fait, une augmentation de l'offre des logements sociaux étudiants, une régulation plus élevée du parc privé, notamment via l'encadrement des loyers. Le syndicat demande également une réforme du calcul des bourses. Il souhaite aussi que l'accompagnement social soit renforcé. Des éléments qui peuvent avoir un impact direct sur la vie actuelle des étudiants, mais aussi sur leur avenir.
Merci François-Xavier. Cela faisait hier 4 ans après le début de la guerre en Ukraine. Un député français a interpellé le gouvernement pour exiger des sanctions nationales plus fortes contre la Russie. Le député Elliott des Yvelines, membre de la Commission de l'Europe et des Affaires étrangères, Laurent Mazzori. Il était au micro de François-Xavier de Calonne. On l'écoute.
L'action de la diplomatie française, 4 ans après le démarrage de cette guerre, elle est quand même assez exemplaire et la France n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait aujourd'hui pour essayer de parvenir à l'arrêt de l'agression russe contre l'Ukraine, parce que je ne veux pas qu'on oublie que c'est bien une agression de la Russie sur l'Ukraine et certainement pas une simple guerre. Elle n'a pas à rougir parce qu'elle a su également mobiliser un certain nombre d'acteurs qui ont apporté un soutien très important à l'Ukraine au niveau des pays européens, mais pas que. Néanmoins, on doit marquer encore une étape, on doit aller plus loin, puisque malheureusement aujourd'hui, c'est un triste anniversaire, 4 ans de guerre, 4 ans de plus, aujourd'hui un peu plus d'1 million de morts, parfois 4 000 morts par jour, plus de 40 000 morts, voire 60 000 morts par an, sans compter les civils. Et là, je parle de part et d'autre, parce que n'oublions pas aussi que nous avons des Russes qui sont contraints d'aller se battre, nous avons des pays étrangers qui sont contraints par la Russie d'aller se battre, nous avons aujourd'hui des personnes qui sont payées pour aller se battre en Russie, et nous avons les populations civiles et militaires ukrainiennes qui sont assassinées quotidiennement, et je ne parle pas de la déportation des enfants, etc., tout ce qui s'est passé.
Et vous rappelez des entretiens entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au début de cette guerre, mais Macron qui était reçu par le président russe, qui pouvait s'entretenir avec lui. Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue direct entre les deux. Depuis, Donald Trump a été élu pour un deuxième mandat, après le mandat de Joe Biden. Où la France a péché?
Je pense que d'abord, la France n'a pas péché à essayer jusqu'au dernier moment d'empêcher cette guerre, de l'arrêter, d'empêcher qu'elle perdure. Ça, je pense qu'il fallait le faire parce que, vous savez, le propre de la diplomatie, c'est justement de maintenir le dialogue et de maintenir parfois le dialogue avec les pires personnages parce qu'il vaut mieux toujours parler que de tout rompre. L'histoire du monde nous l'a toujours prouvé. Il faut garder toujours une ligne ouverte. Au plus grand, au plus fort temps de la guerre froide, il y avait une ligne ouverte entre le président américain et le président russe et ça a permis d'éviter le pire. Si on prend le cas de la crise des missiles de Cuba, nous ne serions ni vous ni moi là s'il n'y avait pas eu à un moment donné une intervention des politiques, au-delà d'ailleurs de l'intervention des militaires, parce que sinon nous serions tous absolument morts et nous aurions été écrasés par le feu nucléaire. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, il faut franchir une étape, il faut aller plus loin, il faut tout faire pour que cette guerre s'arrête dans les conditions que l'Ukraine fixera et pas dans les conditions qu'un tiers pourrait fixer. Je pense là, évidemment, au président américain qui, lui, poursuit des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Il a une vision mercantile des choses, ce n'est pas les nôtres. Nous sommes pour le respect du droit international, le respect des frontières et l'autodétermination des peuples. C'est le cas du peuple ukrainien. Il a le droit à recouvrer ses frontières aujourd'hui devenues ses frontières historiques.
C'était le député Elliott des Yvelines, Laurent Mazzori, au micro de François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Anis pour la réalisation. Excellente suite de programme sur Radio Orient.